C'est ta radio.
C'est votre web radio.
C'est ta radio.fr. C'est ta radio.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
Moi, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair.
Et on se retrouve en direct dans Il va y avoir du sport. Bienvenue sur CETA Radio en ce lundi 16 février 2015. Toute l'équipe est à mes côtés, ou presque, ce lundi soir sur CETA Radio. Bienvenue, monsieur Yves.
Salut à tous.
On a également Aurélien.
Bonsoir.
Fidèle au poste qui est en train de vérifier que tout fonctionne. On remercie Aurélien pour sa capacité technique et surtout notre grand Manitou qui nous écoute depuis Arnes. Laurent, vraiment un gros merci à Laurent pour toutes les innovations techniques qui permettent à CETA Radio de grandir, de s'améliorer et de gagner en qualité semaine après semaine. On a également Vincent dans la team.
Bonsoir à toutes.
On a
bonsoir
également l'ami Philippe. Salut Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
On a également Mika.
Salut à tous et à toutes.
Et voilà, donc le programme de l'émission de ce soir. Oui, peut-être qu'on peut accueillir notre ami Ludo. Est-ce que tu nous entends, Ludo ?
Oui, bonsoir tout le monde, je vous reçois très bien.
Bienvenue en direct dans l'émission Yves Hors du Sport. Le programme de cette émission, Yves.
Eh oui, on va démarrer par le foot et la présentation des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quatre matchs se déroulent cette semaine. Les quatre suivants, ce sera la semaine prochaine. Donc on aura le temps de tout bien observer cette semaine. Ensuite, en deuxième partie, on parlera de la défaite du 15 de France en Irlande. On reviendra sur les points positifs et négatifs. Et enfin, c'était pas prévu, mais on colle à l'actualité. On finira par l'exploit de Monsieur Grange en ski. On l'attendait pas, cette médaille d'or, et elle est arrivée. Voilà, et on reviendra sur ces championnats du monde de ski alpin. Et ensuite, à 20h, Radio Vélo, Nico.
Radio Vélo, avec la reprise de la saison, un petit peu partout, dans le monde cycliste.
Dans le monde.
Avec Emilien Bergès, c'est un ancien coureur, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'équipe RAGT Semence, c'était il y a bien longtemps. Eh bien, il revient à la compétition ces temps-ci, du côté du GSC Blagnac Vélo Sport 31. Il sera avec nous, et on aura également Serge Pascal, l'organisateur du Tour du Haut Var.
Allez, on va démarrer de suite par la Ligue des Champions, Nico.
Alors Yves, cette Ligue des Champions, t'es prêt? Est-ce que t'es pas blessé au moins?
Moi je suis pas blessé, on l'avait quitté en décembre, juste avant l'hiver, comme c'est traditionnel, avec les qualifiés, on attendait, et le tirage au sort, on attendait avec impatience ce PSG-Chelsea, et enfin, il est là, on va pouvoir observer si les Parisiens seront au rendez-vous. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça part pas très bien au niveau de tous les blessés qu'il y a eu ce week-end, Aurélien.
Oui, une équipe de Paris qui, pour moi, ne peut pas jouer sur les quatre tableaux, c'est-à-dire Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, Ligue des Champions. physiquement elle arrive pas à suivre la cadence et bon malgré tous les blessés il y aura quand même je pense une belle équipe alignée, mais face à une équipe de Chelsea aussi performante ces derniers temps, je pense que ça va quand même être difficile. Ouais.
De plus, Chelsea n'a pas joué ce week-end, puisque ouais. effectivement, eux, je pense qu'ils ont trouvé leur compétition et ils sont déjà éliminés de la Coupe d'Angleterre. Et je pense que c'était un choix prémédité.
Prémédité, je ne sais pas, mais c'est exact. Voilà. Du coup, Chelsea a eu plus d'une semaine de repos voilà. et va pouvoir vraiment attaquer ce match. Tambour battant, vu qu'ils n'ont qu'un seul blessé, c'est Obi Mikel qui ne sera pas là. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Certaines se sont levées à moitié aujourd'hui. Hein. Et finalement, le 11 de départ devrait quand même avoir de la gueule hein, au niveau du Paris Saint-Germain. Puisque finalement, c'est seul Aurier, Cabaye et Lucas ne seront pas là. Sûr, ne sont pas. Par contre,
et Marquinhos.
Marquinhos, Mota.
C'est certain. Hein.
Voilà, ils ont été Marquinhos, Mota, Matuidi et Pastore sont dans le groupe de 20 élargi. Il va être réduit à 18 demain. On verra ça. Mais de toute façon, quand on prend l'équipe titulaire, à part un milieu de terrain où vraiment il y a Mota et Matuidi pour accompagner Verratti qui était incertain, le reste, derrière à droite, il y aura sûrement Van der Wiel si Marquinhos n'est pas à 100%. À gauche, Maxwell. Dans l'axe, il devrait y avoir Silva et David Luiz. Milieu de terrain, Verratti, Mota, Matuidi. Et devant, Lucas Moura sera remplacé par Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic. Le 11 de départ, voilà, c'est juste l'incertitude en milieu de terrain qui est un peu inquiétante. Mais le reste, ça, c'est pratiquement l'équipe de l'année dernière.
Et une profondeur de banc qui est quand même le point un petit peu négatif sur ce match-là, puisque si ceux qui seront sur place par malheur se blessaient, il nous resterait quand même un petit peu moins de qualité au niveau banc de remplaçants. Et dans ce cas, on pourrait avoir quand même, je pense, quelques petits soucis, parce qu'on sait que sur les matchs à grosse intensité comme ça, vers la 70e, ça fait pas de mal d'avoir un mec qui impacte pas mal le milieu de terrain.
Bah, il y aura Pastore qui avait des douleurs, c'est pareil, mais le problème c'est ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, incertitude peut-être envers nous. Je pense qu'il y a des infos qu'on n'a pas, évidemment, au niveau du groupe. Voilà.
Le risque aussi, c'est que des mecs qui ont envie de se mettre sur les devants de la scène européenne depuis le temps qu'ils attendent fassent penser qu'ils vont mieux que ce qu'ils ne vont réellement. Et non, mais c'est possible aussi. Hein. Ils ont très envie de le jouer, de se montrer. Ils font tout pour être titulaires. Et puis finalement, ils sont à moitié en forme, avec le risque de se recasser.
Ludo.
Ouais, groupe élargi à 20 joueurs, comme tu as dit. Donc, c'est bien quand même que les blessés, il faudra attendre vraiment le tout dernier moment pour lever ces incertitudes. Hein. Et si vraiment tout le monde peut jouer, ça fait une belle équipe. Il n'y a que vraiment Lucas qui est qui est absent et qui est titulaire indispensable, parce que Aurier et Cabaye, ils sont pas dans l'équipe titulaire. Mais enfin, c'est vrai qu'ils seraient sur le banc des remplaçants. Donc, profondeur banc, ça va être difficile face à Chelsea.
Ça va être très limite, notamment en milieu de terrain. Il y aurait que Pastore et Rabiot qui ont l'habitude de jouer. Devant, ben c'est clair, il y a personne. Hein. Il y a personne à part les trois qui
vont Beck, être. Mais Beck, c'est pas le niveau voilà, des champions.
Exactement, c'est peu. Mmh. Et derrière, si Marquinhos est en Oris n'étant pas là, si Marquinhos est un peu limite, il reste plus que Digne ou pas plus Camara. Moi, je leur souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de pépin physique demain en première mi-temps, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Hein.
Oui, alors après, par contre, le gros avantage qu'on a par rapport à l'année dernière sur une telle confrontation, c'est que quand même, il y a David Luiz qui est du camp parisien. Ça, je pense que ça va un joueur qui va vraiment pouvoir apporter beaucoup. Hein.
C'est un plus, c'est effectivement.
Voilà, à mon avis, c'est un plus, quoi. Parce qu'il ne faut pas croire hein, que Chelsea non plus a un banc extraordinaire. Hein. C'est pas non plus, c'est pas le banc du Barça. Ou d'un grand club européen.
Alors, d'ailleurs, Vincent, quel est le banc où on est le mieux assis? C'est intéressant. J'en ai vu qu'il y avait des baquets de Formule 1. C'était où? C'était à Juventus, ça, à l'époque, non?
Oui, il y a un soir, mais là, même à Madrid, ouais. Non.
Ouais, bon, au TFC, je ne sais pas s'il y a des super, non, mais en tout cas.
Bon. Parce qu'au stade de Vélodrome, c'est pas mal.
Non, en tout cas, par rapport à cette. Alors, ça, l'équipe, ça nous a régalé hier à 9. Le PSG qui finit à 9 avait des blessés, ils se sont régalés. Et la presse n'en demandait pas plus pour taper sur Paris.
Ah ben, pour taper sur Paris, pour taper sur Laurent Blanc, qui a, alors c'est sûr que ils sont encore dans les quatre compétitions, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat et Ligue des Champions. Eh ben, de suite, on est obligé de jouer tous les trois jours. Hein. Donc, Thiago Silva a critiqué la fédération au niveau du calendrier. Mais à un moment donné, les quatre compétitions.
Ouais, on peut pas faire autrement. Ouais.
C'est très difficile.
Il n'y a pas que Paris qui va être embêté. Hein, parce que Monaco, qui a vu son match reporté contre Montpellier ce week-end, va être aussi sacrément perturbé aussi s'il passe le cap de ce huitième de finale. Donc, je veux dire, bon, ils ont quand même un effectif pour. Même s'ils se plaignent, ils ont quand même un effectif pour jouer quand même très souvent. Surtout que quand même, il faut relativiser.
Il faut du foot, les mecs. Oui, ben oui, il faut relativiser, ben ça.
Non, mais il faut quand même aussi la Coupe de France. C'est pas non plus le Barça en face à chaque année, quoi.
Exactement. Hein. Et c'est pour ça qu'il a fait, tourner un petit peu avant.
Contre Nantes.
Et là, bon, en même temps. Ceux qui se blessent, voilà, c'est Aurier, ouais, qui avait très peu joué en début de saison. Il a fait une grosse canne. Il a joué 6 matchs en 18 jours. Et peut-être que là, il aurait mieux fait de le faire reposer. Mais bon, Aurier, c'est moins grave. Voilà.
Ça y est, Aurier, ça me fout. Hein,
exactement.
Le petit souci aussi, c'est que du coup, comme en championnat, ils sont un peu justes. Ils ne peuvent pas trop se permettre.
Voilà. Exactement. À la différence de Chelsea, qui est en championnat. On rappelle ce balade. Ils ont 59 points. Alors que Manchester City n'en a que 52. Et United, 47. Ils ont déjà 12 points d'avance sur le 3e. Voilà, donc eux ils peuvent se permettre des rotations, quoi.
Après, Paris a de la chance aussi à championnat, puisque devant ça gagne pas, tout le monde fait match nul chaque fois. Quand Marseille fait match nul, Lyon et Paris le font, donc je veux dire, le championnat est malgré tout serré,
c'est très serré. Ludo, voilà.
Ouais, messieurs, si bon, je suis pas très spécialiste foot, hein.
Mais tu fais des recherches,
aussi, alors, je suis sûr. Tout à l'heure, mais ouais, c'est pour ça quand même.
Le PSG marque un essai dans les 10 premières minutes,
hein. Voilà. 5 points, ils ont gagné le match et tout. Non, mais est-ce que vous trouvez pas Chelsea un petit peu trop confiant là sur ce match, parce que quand il y a eu le tirage au sort, Mourinho était content.
Il avait prédit avant même.
Et ce soir même, Chelsea va même pas reconnaître la pelouse du Parc des Princes. Ils vont même pas prendre leur repère sur le stade. Ils font Londres-Paris, ils vont directement à l'hôtel. Ils les peignent pas un petit peu de haut, là, les Parisiens. Mais... Et ça va, non?
Non, Ludo, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a plein d'autres choses sympas plutôt que d'aller au Parc des Princes ce soir à Paris, quand même. Mais non, plus sérieusement, Ludo, je pense que Chelsea, non, il faut pas qu'ils prennent le PSG à la légère. Mais quand même, c'est un bon tirage pour Chelsea.
Mais après, on connaît l'entraîneur Mourinho qui est capable de tout. Les Olympiques
sont des favoris de la Ligue des Champions.
Ouais. Hein. Surtout le championnat qu'ils sont en train de faire, on les a peut-être pas aussi haut en début de saison. Alors, pour revenir un petit peu sur la compo, parce qu'il y a aussi des incertitudes au niveau de Chelsea, mais c'est pas à cause des blessés, c'est plutôt par les bonnes performances des joueurs. Dans les buts, notamment, on pensait que Thibaut Courtois allait s'installer à début de saison, maintenant c'est un peu moins sûr, puisqu'il y a Petr Cech qui rentre en concurrence. En défense centrale, Kyle Terry semblait indéboulonnable, et c'est l'arrivée de Kurt Zouma, qui a été 6 fois titulaire sur les derniers matchs, qui met un petit peu le doute. Après, Ivanovic et Azpilicueta où Philippe Luiz devrait jouer, mais encore, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de joueurs d'un très bon niveau à Chelsea et ils sont presque interchangeables.
Ouais, Chelsea,
devant, Diego Costa, là,
ouais, Ludo,
Kurt Zouma, c'est l'ancien de Saint-Etienne, non?
Ouais.
Quel parcours pour ce joueur, ouais, super. Ouais,
comme quoi,
on s'attendait pas déjà cette année qu'il soit aussi.
Il y a vraiment des bons agents. non, pour les cotes, la Ligue des Champions, Chelsea vainqueur final, c'est 6,75. PSG vainqueur final, c'est 18 contre 1. Bon, vous avez compris que Chelsea est favori de la double confrontation.
6,75 et 18 contre 1.
Ouais.
De Ligue des Champions, pas du match.
Oui,
pas
vainqueur de la Ligue des Champions. Ouais. Le grand favori de la Ligue des Champions, c'est le Bayern à 3,40, le Real est à 3,50, le Barça à 6,25 et ensuite vient Chelsea à 6,75. Moi, j'aurais bien l'Atlético Madrid, hein, cette année, c'est à 12,50. Mais pour la confrontation de demain, Yves, c'est 2,80 le PSG qui gagne, 3,10 le nul, 2,75 Chelsea. Faites vos jeux, rien ne va plus.
Match nul.
Avant de partir sur les trois autres rencontres, on va faire un petit tour de table. Moi, c'est pareil, je vois comme Vincent, je vois un nul demain. Aurélien.
Moi, je vois une victoire parisienne demain, une petite surprise, ouais.
Philippe.
Moi, une petite victoire de Paris, 1-0.
Non, le nul, il cote bien en plus.
Ouais, je suis d'accord avec Mika, le nul, parce que PSG, il faut surtout pas perdre à la maison. Et Chelsea, bon, on pourra gagner au retour.
Ouais, un petit 1-1.
C'est bien.
0-0, c'est mieux.
Avec un but de Zlatan qui enlève son maillot qui prend un carton jaune.
Zlatan, il y a encore des buts. Ludo.
Et moi, les 2-1 pour le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, il y aura le but à l'extérieur.
Et c'est ça.
Voilà. Et 5-0 à Chelsea, est terminé.
Voilà, ça... avec un essai d'Ibrahimovic, hein, bien sûr. Voilà.
On aura le temps, en tout cas, d'en parler, puisque le match retour, ce sera mercredi 11 mars. Donc, on a le temps de, on aura le temps de voir venir. Il y a d'autres rencontres, donc, du coup, il y en a trois. Il n'y a pas de gros choc. Il y en aura plus la semaine prochaine, notamment avec un City Barça. Mais demain, il y a Shakhtar Donetsk contre le Bayern de Munich. Bon, peut-être pas dès demain soir, mais bon, le Bayern, c'est un problème.
Oui, c'est une équipe en difficulté. Il n'a mis que 8 buts ce week-end.
Ludo.
Oui, et ouais, là, c'est le Bayern. Hein, là, il n'y a pas photo.
Enfin, le Shakhtar, c'est pas trop mal. Hein,
exactement. Alors, demain, moi, je mets un petit bémol quand même. Hein.
Donetsk qui va même pas jouer sur sa pelouse vu les événements.
Et oui, j'allais dire où est-ce que ça se joue, parce que ça va pas se jouer en Ukraine.
Donc, il joue apparemment quand même en Ukraine, alors au stade de Lviv. Alors LVIV, voilà.
Oui, c'est une équipe qui a joué l'année dernière.
C'est dans l'URSS, ça.
Oui, non, il y a un club là, il y a un club à Lille, ils avaient joué l'Europa League l'année dernière.
À Lille, mais c'est à côté du studio de Arne, c'est ta radio, ouais.
Donc voilà, de même moi voilà, victoire du Bayern normalement, mais pas, enfin, je pense pas que ça va une
Moi je les ai vus contre Hambourg. Hier, il y a pas photo, quoi. Je veux dire, il joue à la baballe et puis il met des perles une après les autres. Hein. Et Hambourg, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même une équipe. Bon, ils ont pris vite, mais
ils sont.
C'est pour ça. Ils ont pris vite, mais ils sont bons. Hein,
c'est les favoris de la Ligue des Champions.
Oui.
Donc, du coup, mercredi, il y aura vraiment le match un peu. Voilà, que je pense que personne va regarder. Ce sera FC Bâle contre FC Porto.
Ah si, ouais, moi, j'ai tous mes amis suisses à la maison. Ouais.
Donc là, c'est pareil. Porto par l'expérience, mais attention à cette équipe
à
de Bâle,
un petit nul.
Ouais. Moi, je vois bien une victoire de Bâle à la maison parce qu'ils sont quand même difficiles à battre chez eux. Et ça, mon avis, ça sera la surprise des 6 huitièmes de finale et l'élimination de Porto.
De Porto. Ludo
Bâle Porto, pareil. Hein. Je vois comme Vincent, je vois Bâle gagner et même se qualifier. Hein. Donc ça va être dur. Je vais revenir au Bayern Munich. Ils ont mis 8 buts. Ça veut dire qu'ils ont presque mis autant de points que l'équipe de France de rugby. On y reviendra tout à l'heure.
J'ai pensé, mais j'ai pas osé.
Un essai plus une transformation. Une pénalité, pardon.
Bon, enfin bon, 8 buts, c'est génial. Hein.
Allez, et le dernier match de la semaine, ce sera Schalke. Schalke 04 qui affrontera le Real Madrid qui est un peu plus en dedans ces dernières semaines.
Ouais, un peu plus en dedans, mais victoire quand même facile, je pense, des Madrilènes.
Schalke, c'est plus ce que c'était.
Ouais, du tout. Ouais.
Et comment le Bayern domine le championnat d'Allemagne, le Real sera large aussi. Hein.
Ouais, parce que voilà, Schalke n'est plus l'équipe il y a 2-3 ans. Donc du coup, le Real devrait le faire, même si Cristiano Ronaldo va mal, puisque depuis qu'il s'est fait quitter.
Et une de perdu, 10 de retrouvé avec le pognon qu'il a.
Seulement 2 buts depuis l'année début d'année 2015, face aux 13 de Messi, ça fait pas
beaucoup. Il faut foutre merde dans le couple de Messi. Quoi.
Exactement, Ludo. Ouais.
Oui, alors là, Schalke contre le Real, là, c'est le Real. Voilà mon pronostic. Il y aura pas photo non plus.
Retour de Marcello et de Pepe en défense, ce qui devrait faciliter la chose, parce que c'est vrai qu'en défense centrale, ça avait été un peu limité, notamment contre l'Atlético de Madrid il y a 2 semaines. Là, ça devrait le faire. Eh ben, on a fait le tour, là.
Pas mal. Il te reste 4 minutes avant la coupure. Puis, là, t'es dans le tempo.
Je suis dans le tempo. Alors, on rappelle quand même qu'il y aura, donc 4 matchs, c'est les 8e de finale. C'est les 4 autres matchs se dérouleront, donc mardi et mercredi prochain. Monaco-Arsenal. Là, par contre.
La Ligue des Champions. Monaco-Arsenal, c'est la Ligue des Champions.
En Coupe de France.
Ah, exactement. Oui, j'ai cru, moi, en Coupe de la Ligue.
Monaco qui n'est pas dans une bonne dynamique, mais.
Très dur à pronostiquer, Yves.
Parce que, voilà, Monaco très solide derrière, va jouer en contre, évidemment, et on peut s'attendre à tout avec cette équipe de Monaco.
La seule chose qu'on est sûre sur ce match, hein, c'est que le stade sera rempli d'anglais.
Ouais. tous les expatriés.
Oui, tous les expatriés.
Exactement. Et Arsenal, par contre, qui.
Et Arsenal qui peut perdre un match contre n'importe qui. On voit un championnat d'Angleterre. Et sur les dernières années en Ligue des Champions, ils ont quand même pas mal de difficultés. Du coup, Monaco peut créer aussi une petite surprise, je pense.
Retour de Giroud à ce week-end qui a marqué. Et Arsenal qui est largué au niveau du titre et au niveau du championnat anglais. Ils sont cinquième. Bon, ils accrocheront la Ligue des Champions, mais c'est encore une saison compliquée pour Arsène Wenger.
Ouais, tout à fait. Un début d'année toujours assez difficile qui leur coûte un petit peu la saison parce qu'ils vont mieux dans le jeu là, depuis quelques temps, mais leur mauvais début de championnat leur a coûté.
En fait, Arsène Wenger, c'est
C'est stable.
C'est le problème.
Non, mais il faudrait peut-être qu'ils mettent
bon,
un petit peu de...
C'est bon, mais
je viens
que c'est là.
Non, c'est ça. Et pour passer à l'étape supérieure, il faudra faire quelque chose. Hein.
Ludo.
Tu disais, Yves, que Monaco n'est pas dans une bonne dynamique. C'est vrai, ils ne marquent pas beaucoup de buts.
C'est
mais
ça.
Là, ils ont été surprenants la semaine dernière. Ils ont mis 3 buts. Hein, vraiment, c'est super pour eux. Hein, très impressionnant. Mais Monaco-Arsenal... Monaco, quand même. Je pense qu'ils peuvent le faire. C'est vrai qu'Arsenal, c'est coussi-coussa, hein, comme on dit.
Là-bas, ça va être compliqué. Hein.
Ouais, mais pour le foot, pour la beauté du jeu, il faudrait que ce soit Monaco, parce que Arsenal, parce que l'équipe de Monaco, au niveau du jeu proposé, c'est à chaque fois c'est très poussif. Comme je l'ai dit, ils ont marqué peut-être 3 buts, mais à chaque fois, quand on regarde un match de Monaco, c'est vraiment.
Ça dépend, et ça marque pas de but.
Exactement.
Ça marque pas de but.
Et le gros choc, ce sera City-Barcelone mercredi prochain, avec Barcelone. Ouais. Qui revient.
City qui repart.
Très en forme.
Ça allait mieux à un moment donné quand même à City. C'est pas très très brillant dernièrement.
Et Barcelone qui revient à un point du Real Madrid en championnat et qui sont sur une forme olympique. C'est les 5-6-0 tous les week-ends. Donc ça risque d'être une très belle confrontation. On en reparlera la semaine prochaine.
D'ailleurs, on se rend compte que maintenant que la Ligue des Champions arrive à grands pas, les équipes qui sont censées être vraiment au top, sauf en France, avec le PSG. À cette époque-là, comment ça allait être? Ce week-end, ça a cartonné le Bayern, le Barça.
Bayern-Barça, surtout.
Il n'y a pas de miracle. Ouais. Hein, c'est la programmation physique au top.
Et une équipe qui revient un petit peu, même s'ils ne sont que 14e, c'est Dortmund qui est encore gagné.
Voilà, ils ont gagné ce week-end. Alors, ce sera, à mon avis, il faudra aller voir aussi la semaine prochaine la Ligue des Champions, parce que l'année suivante, on ne les verra pas. Hein, ils sont en 14e. Mais effectivement, ça fait plaisir. On l'avait dit. On espère vraiment que Dortmund se maintienne dans cette Bundesliga. On parle même pas, on se projette à peine sur le jeudi sur cette Europa League où il y aura quand même la seule équipe française, ce sera quand même l'Anavan Gengang qui fait une superbe saison en championnat.
Extraordinaire, ça se trouve, ils vont se maintenir en plus.
Exactement,
se qualifier pour les Champions.
Et voilà, exactement, qui ont joué le jeu pour une fois à fond pour une équipe française en Europa League, ils sont récompensés et ils sont en 16e de finale. Et rien que pour ça, il faut quand même leur tirer le chapeau, Nico.
Ah oui, non, moi je trouve ça superbe. Le danger, c'était de continuer en Europa League et d'être sûr de descendre en Ligue 2. Bon, finalement, le championnat de Ligue 1 est encore assez ouvert.
Eh bien, écoute, on pourra
et
parler.
Et en plus, le Dynamo de Kiev n'a pas repris son championnat. Donc, c'est un petit avantage supplémentaire pour nos amis bretons.
On en reparlera la semaine prochaine. On se retrouve de suite après la coupure, puis Nico.
Exactement. Du sport, décidément le progrès technique ne s'arrête pas. On se régale avec le nouveau logiciel de diffusion. Partageons notre bonheur, Yves.
On se régale ce soir, à défaut de s'être régalé samedi avec l'équipe de France.
Exactement.
Sans transition, on est parti pour le rugby.
Il arrive le rugby. Laisse-moi.
Il est autant à la bourre que les Français ont commencé leur match.
Voilà, c'est juste. Il faut faire des remplacements ici aussi.
Bonsoir chers amis, la rubrique rugby.
Eh oui, le tournoi Destination, c'était la deuxième journée ce week-end, et l'équipe de France, comme prévu, on l'a dit, ben, s'est inclinée en Irlande 18-11. Pendant que l'Angleterre atomisait l'Italie 47-17, et les Gallois qui allaient gagner en Écosse, petite victoire 26-23. Mais évidemment, on va se pencher plutôt sur notre équipe de France qui nous fait souffrir, même s'il y a eu du mieux quand même ce week-end. Mais malheureusement, ça se solde toujours par une défaite, Ludo.
Ouais, bon, on attaque le rugby, donc ça ira mieux. On a parlé des pouces cailloux tout à l'heure, donc bon, voilà, je suis un petit peu mieux dans mon domaine. Mais oui, une équipe de France qui a perdu de très peu, certes, mais qui a perdu, quoi. Et je suis toujours pas rassuré, hein. On a toujours pas trouvé l'axe de l'équipe, le numéro 2, 8, 9, 10, 15, là, les joueurs importants. Il y en a qui sont passés à côté, par exemple le numéro 8, Chouli, qui a complètement passé à côté son match. Camille Lopez, qui a pas été terrible en numéro 10 non plus, il a raté beaucoup. Où il a fait 50% hein, dans ses tentatives de tir au but, et puis même l'animation au pied, il a failli. Hein. Et puis numéro 9, Cocotte aussi, qui a quand même fait trop de choix douteux, il a raté son match. Hein. Alors Cocotte, Saint-André a voulu l'essayer, donc c'est bien, maintenant on va dire stop, et on va passer maintenant à Parra et Tillousbord, enfin j'espère, parce qu'avec Saint-André, on ne sait jamais. Et toujours au niveau de l'axe, le numéro 15, Scott Speeding aussi, qui n'a pas été terrible. Donc, on n'est quand même pas mieux avancé, et plus justement, on avance vers la Coupe du Monde, et ben moi, on sait de choses à propos de cette équipe de France.
Il faut garder que les Français, quoi, finalement.
Par contre, là, il y a quand même un petit changement, c'est que Saint-André a mis des noms sur ceux qui ont failli. Ce qui est quand même très très rare de sa part en conférence de presse. Après, il a cité Lopez, Cocotte, Teddy Thomas aussi, qui a raté un 5 contre 2, ça on l'a assez entendu, et Papé qui se fait sortir sur un carton jaune sur un temps fort français.
Ah oui, inadmissible, c'était un temps fort français. On était encore dans le match, je sais pas, on commençait à presque prendre le dessus physiquement, et Papé qui met ce coup de genou là dans le dos d'Islip, inadmissible pour un gars avec la carrière qu'il a, quoi. Ouais. C'est un vieux briscard, et puis là, je veux dire, devant l'arbitre.
Il est convoqué, hein, il est convoqué. Puis,
voilà, il est convoqué, oui, parce que apparemment, alors après, je sais pas si c'est vrai, mais Islip aurait une fracture d'une vertèbre, enfin.
Vertèbre,
après,
ouais,
Il va prendre cher,
Ça peut aller de 6 semaines, je crois, jusqu'à 52 semaines. Donc, il faudrait pas que ce soit le dernier match de Papé, selon peut-être la blessure de Papé en équipe de France. Hein.
En plus, c'est mérité parce que je veux dire, Papé, je suis pas très placé pour parler rugby, mais je veux dire, souvent quand je le vois, il est auteur de mauvais gestes comme ça. Surtout là dans un temps fort français où voilà, on prenait un petit peu le dessus au niveau du jeu. Un gars de son expérience, il doit pas faire ce geste-là.
C'est lamentable. Excuse-moi.
Alors, il y a Teddy Thomas aussi qui est blessé apparemment, torse péroné tibial. Donc, ce sera incertain. Et pour revenir au match, il y a des satisfactions quand même, notamment l'apport de tous les remplaçants, Ludo.
Ouais, et puis j'ai vraiment aimé, par contre, dans le match au niveau des titulaires, c'était le seul changement que Saint-André a fait au tout début de match. C'est le pilier Ben Arous qui a remplacé Menini, hein, qui était blessé. On parle d'une blessure diplomatique, mais enfin ça, voilà. Mais Ben Arous, vraiment, qui a fait un match digne d'un pilier international. Ça a été la très très bonne surprise du match. Et puis tu l'as dit. Les remplaçants, ben, quand ils sont rentrés, ben, Antonio, De Batty,
Kaiser,
Parra, Kaiser, et surtout Antonio, De Batty, j'ai bien aimé, j'avais des doutes sur eux, hein, franchement, la semaine dernière.
Thalès, moi j'ai trouvé Thalès très entreprenant.
La puissance, ils ont été puissants, et ça a fait la différence, ça aurait pu faire basculer le match, hein.
Thalès qui est rentré à 53e, et c'est le joueur français qui a parcouru le plus de mètres, avec le ballon à la main, alors qu'il est rentré à 53e minute. C'est dire.
Oui, ouais, c'est qu'on n'a pas voulu prendre un jeu à notre compte. C'est peut-être pas le but de l'équipe, une équipe qui toujours défend pas trop mal, puisque bon, c'est pas passé dans tous les sens, mais bon, toujours sans trop de construction de jeu, alors que ça fait quand même un moment maintenant qu'ils commencent à être ensemble.
Pas d'essai encaissé, mais malheureusement sanctionné par 14 pénalités, c'est ce qui fait perdre le match.
Moi, je retiendrai juste le titre d'un quotidien régional d'hier, tous grippés, et c'est vrai que ça résume vraiment bien. L'état d'esprit, quoi. Enfin, moi j'ai regardé le match, mais quand on regarde Irlande-France ou Écosse-Pays de Galles, il n'y a pas photo. Quoi. Enfin, moi, je me suis vraiment ennuyé. Après,
ouais. Alors, c'est sûr que si on compare avec Écosse-Galles,
ouais, c'est vraiment régalé.
C'est régalé, Écosse-Galles.
Je ne ferai aucun commentaire sur les commentaires de France Télévisions.
C'est pas la peine. Ludo.
Voilà, Yves, bon. Ouais, Yves, t'as pointé donc l'indiscipline, la 14 pénalités, plus le carton jaune. Et puis, au nombre de ballons rendus, on est absolument, il faut le dire, nul. Parce que quand l'Écosse, on a perdu 14 ballons, donc c'est des turnovers, c'est des après-ballons d'attaque pour les autres. Alors l'Écosse, 14 ballons perdus, et turnovers aussi, 18 face à l'Irlande. Donc si on rajoute 18 plus 14, c'est beaucoup trop pour espérer gagner un match face à des grandes nations. Hein.
Par contre, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas trouvé que ça a été une grande Irlande, quoi. Un peu vieillissante, voilà. Ils m'ont pas impressionné par rapport aux dernières rencontres qu'on a pu.
Comme en Italie non plus, ils avaient gagné le match, mais en le maîtrisant, mais sans exploser comme.
Je pense qu'il y aura pas photo Irlande-Angleterre. Hein.
Ah, non, je continue à mettre l'Irlande. Je mets une pièce sur l'Irlande vainqueur du tournoi. Et c'est vrai qu'ils sont pas terribles dans le jeu, mais juste depuis l'année dernière, je crois qu'ils ont fait 12 matchs, ça fait 11 victoires.
Irlande-Angleterre, voilà. Hein. C'est l'Angleterre qui se déplace. Donc c'est vrai que c'est
moi, je mettrais une pièce sur l'Angleterre. Hein. Et sans là.
Irlande-Angleterre, dimanche 1er mars, à 16h. Hein. Et ce match-là, ça va avoir le coup d'œil. Le vainqueur gagnera le tournoi.
Il faut quand même noter que les Anglais ont souvent des mauvaises entames de match. Effectivement, hier, enfin, contre l'Italie, ils ont une très très mauvaise entame de match. Après, quand ça a démarré, la mécanique a bien démarré. Mais l'entame de match n'était pas terrible pour les Anglais. Il ne faudra pas qu'ils fassent ça la prochaine fois.
Ouais, avec un blessé rapide, ça a un peu coupé le jeu aussi. Il y a quelques circonstances atténuantes.
Après, un petit mot sur l'Italie. Ils tiennent, comme chaque fois, 20-25 minutes. C'est une équipe qui est vieillissante, mais voilà, ils tiennent 25 minutes. Le match dure 25 minutes.
Physiquement, ils explosent.
Physiquement, voilà, ils sont ridicules. Quoi.
Ludo.
L'Italie, oui, ben, hors sujet, là, ils vont avoir la cuillère de bois. Hein,
oui, parce que l'Écosse, malgré les deux défaites, c'est pas mal.
Oui, les Corolla, c'est ce que je voulais dire.
Bon, c'est la belle surprise.
Il y a 15 jours, je pensais que l'Écosse allait terminer même 3e du tournoi. Hein, je les voyais un peu meilleur que ça. Pourtant, ils font, c'est sûr, du beau jeu. Ils ont fait des progrès énormes depuis que Vern Cotter a pris l'équipe en main. Mais ils passent, ils échouent. Donc, à 3 points hier, à 7 points contre les Français. Il leur manque, je pense, un peu de puissance physique. Sinon, c'est vraiment pas mal. Hein.
C'est largement meilleur que l'Italie, ça prend pas de roost.
Ah oui, c'est bon, regardez. Ouais, voilà, le match hier, Écosse-Pays de Galles, ça a été un régal, hein, ça a attaqué de tous les côtés. Hein.
Et moi, je vous annonce que le Pays de Galles viendra gagner en France. Hein.
Ah ben ça.
Parce que c'est vrai qu'ils ont un jeu plaisant, je veux dire, même s'ils perdent contre les Anglais, je veux dire, voilà, ils ont un fond de jeu, nous on a rien.
Ben, les jeux plaisants, voilà. Après, c'est sûr, bon, on voit l'Écosse qui a un jeu beaucoup plus plaisant que la France, mais qui ne gagne pas. Donc après, je pense qu'il faut trouver quand même un équilibre. Mais c'est vrai que, et pour en revenir à un match de l'équipe de France, il y a des stats qui sont terribles parce que, taux d'occupation du terrain, la France c'est meilleur que l'Irlande. Ce qui est quand même très rare, parce que normalement, quand on joue dans le terrain adverse, ben, c'est qu'on a la possession du ballon et qu'on va jouer chez eux, donc on a quand même plus de chances de marquer. Et surtout, au niveau des mètres parcourus avec le ballon, c'est énorme. La France est devant avec 350 mètres parcourus, alors que l'Irlande n'a fait que 210 mètres parcourus avec ballon à la main. Mmh. C'est-à-dire qu'on a le ballon, mais complètement stérile. Et quand on voit que finalement, il n'y a que moi, j'ai compté sur le match, trois actions vraiment de jeu où on marque un essai sur une et deux autres, mais des ballons, des actions offensives avec des croisés, il n'y a rien.
Ouais,
c'est stérile, complet.
J'ai une question à vous poser. D'après vous, combien de temps va tenir l'Italie contre l'équipe de France?
Ludo.
Match en Italie en plus. Hein.
Voilà, match en Italie olympique. C'est là qu'on verra vraiment le niveau de l'équipe de France.
Je ne fais pas d'erreur dans le calendrier, je crois que c'est match en Italie, mais j'en suis pas sûr. Là.
Oui, c'est en Italie. Dimanche 15 mars.
Oui, donc notre bête noire comme souvent. Enfin, je sais pas, on va quand même aller gagner là-bas, mais
moi pas sûr.
Ça va être très très dur, très très dur. Mais oui, mais pas sûr. Hein, mais moi, je mettrai pas de l'argent sur la victoire française en Italie. Mais
alors bon. Là, si quand même la France ne gagne pas en Italie, c'est même pas la peine qu'ils aient la Coupe du Monde, quoi.
On rappelle, dire,
j'ai rien contre les Italiens, mais bon, quand même.
Vincent, l'équipe, attention, en poule de Coupe du Monde. Voilà. Ouais. On est dans l'Irlande, dans la poule de l'Irlande, dans la poule de l'Italie. Alors j'espère que c'est pas la première fois qu'on va pas passer la phase de poule, mais j'y vois pas bon encore une fois. Saint-André va avoir des bilans négatifs. Enfin, je le souhaite pas pour la Coupe du Monde. Mais,
on battra la Roumanie, bon.
Ouais, il faut finir les deux premiers. Et il faudrait mieux finir premier parce que sinon, en quart, c'est les.
L'Argentine.
Non, c'est le All Black, je crois.
Non, c'est l'Argentine si on finit premier.
Voilà, et c'est pour ça que je dis, il vaut mieux finir premier pour prendre l'Argentine parce que si on finit deuxième, c'est le All Black. Même après... si l'exploit vite arrive avec l'équipe de France.
Oui, tout à fait. Non, mais par contre, moi, je me pose quand même une question de Saint-André. Pourquoi il prend. Enfin, voilà, il critique effectivement les joueurs, il n'est pas content.
C'est rare, hein.
Oui, mais fait là sur ce match, ouais. J'espère que ben, contre le prochain match contre Pays de Galles, il va quand même faire des changements parce que quand même qu'on voit un peu qu'il profite de ce tournoi pour tester des joueurs.
Ah bah ça, il a fait que ça tester. Voilà, mais faut trouver maintenant.
Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, on arrive quand même à 2-3 matchs de la Coupe du Monde, même s'il va avoir des matchs cet été.
Pas fait, beaucoup plus, hein.
Voilà. 5-6. Mais il faut quand même qu'on ait une équipe type. Et moi, je suis surpris effectivement de voir effectivement tant de changements que ça. Qu'est-ce que tu Enfin, c'est Ludo.
Ah mais moi les changements, de toute façon, les meilleures équipes, ils ont leur équipe type depuis 2-3 ans. Hein. Justement, l'axe que je vous disais tout à l'heure, vous prenez toutes les équipes du monde, le numéro 2 on sait qui c'est, le 8 aussi, le 9 aussi, le 10 et le 15, c'est toujours les mêmes joueurs, et ils ne jouent pas que lorsqu'ils sont blessés, mais ils savent qu'ils vont retrouver leur place à la fin de leur blessure. Quoi. Nous on ne sait pas qui va jouer, quoi. Enfin,
parce que
c'est quand même un peu bizarre.
Le problème il est là, hein.
Ouais.
Le problème il est là parce que c'est pas là du coup comment on sait pas qui c'est qui joue, dès qu'il y a une mauvaise performance, de suite on met un porte-à-faux le joueur, bah finalement il a pas été bon, on le sort. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas d'équipe type. Parce que si on a une équipe type, ben c'est pas parce qu'un mec rate un match que de suite il va se faire sortir, quoi.
Et regarde effectivement l'Irlande, ils ont beau perdre des fois, effectivement ils ont toujours la même équipe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça paie.
Et voilà. On se demande jamais pourquoi le joueur est mauvais. Peut-être que c'est parce qu'il se dit si je suis mauvais, je vais sortir. Donc forcément,
il y a aucune certitude.
Ouais, j'espère que Camille Lopez va pas faire les frais quand même de.
Je pense que oui.
Des paroles de Saint-André, mais sauf le souci, on met qui en 10, c'est le solde haut niveau en France. Et d'ailleurs, erreur de management de Saint-André durant la semaine, parce que la semaine dernière, Camille Lopez face à l'Écosse avait été un des meilleurs Français. Hein, ouais. Il avait tout réussi au niveau de ses tirs au but et dans les coups de pied de déplacement. Et il a été critiqué par Saint-André dans la semaine. Alors, le jeune, je sais pas, il a 23 ans, c'est son quatrième match international, faut lui laisser le temps de s'installer, et on ne le critique pas durant la semaine, par média interposé, hein, j'espère que quand même il lui a dit ce qu'il pensait, je veux dire, dans le vestiaire, mais enfin, à la veille de rencontrer quand même Jonathan Sexton, après on fait des comparaisons Sexton face à Lopez, ça a été... Erreur de management, encore une fois, de la part de Saint-André. Il aurait mieux fait d'attendre un petit peu. Hein.
Moi, je pense qu'il devrait... S'il veut vraiment que ce soit le titulaire, il faut le laisser, même s'il rate un match. Mais malheureusement, je pense qu'il va le sortir. Moi, je pense qu'il le sortira.
Et il va mettre qui?
Un autre, hein. Comme à son habitude à Saint-André, vu que ça tourne tout le temps.
Ouais, Thalès, je crois. C'est Thalès, mais enfin bon, ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. Donc il mettra Parra Thalès, puisqu'il n'a pas voulu mettre Parra Lopez, qui se connaissent en club. Donc il mettra pas Coco de Thalès, puisqu'ils se connaissent en club. Saint-André, dans la logique, il va nous faire ça. Non, mais j'espère que Lopez va quand même.
Nico, juste. Notre ami Nico, hein, qui nous écoute depuis Chartres, et on salue son rhume, hein, sa petite grippe, qui nous fait remarquer quand même que Ludo est un petit peu pro Clermont, hein, dans ses commentaires. Sympa avec le joueur de Clermont, c'est Ludo.
Oui, c'est vrai, mais
nous on peut plus à Toulouse de toute façon. Hein.
Au tout début, j'ai quand même critiqué Chouli, hein, Lopez qui a raté son match, j'ai quand même dit, et puis Chouli qui a pas été bon numéro 8, et il y a l'ombre de Picamol qui plane au-dessus de sa tête, hein, le Toulousain. Alors après, je sais pas s'il est toujours blessé du côté de Toulouse.
Il va revenir.
C'est vrai qu'au niveau puissance, il ferait du bien. Et puis encore une erreur de Saint-André. Je sais pas, il fait que des erreurs. Mais enfin, Chouli en club, donc c'est un numéro 8 de formation, on va dire. Il tourne avec Fritzi et Julien Bonner dans les petits matchs du championnat, style La Rochelle, Bayonne, mais les gros matchs, Damien Chouli ne joue jamais numéro 8, il joue toujours en troisième ligne L, et c'est Fritzi qui est titulaire numéro 8 à Clermont.
Saint-André, il a vu que le match contre La Rochelle, c'est pas sa faute.
Il paraît que Saint-André, après la Coupe du Monde, il va entraîner Clermont-Ferrand.
Voilà. Vous avez noté quand même que Ludo nous a pas dit à quel entraîneur de Clermont en équipe de France.
Faudrait pas qu'il récupère Saint-André.
Saint-André, un ancien joueur de Clermont.
Eh hein. oui.
Allez, on va avancer parce que sinon ça ne sortira pas. On en parlera dans deux semaines, je pense qu'on fera une petite pause.
Dans deux semaines, oui.
Exactement, donc on le dit.
Où est-ce qu'ils vont, Clermont, ce week-end, Nico? Ludo, pardon.
Oulala, c'est le gros choc, c'est Racing Métro contre.
Certains sont au repos d'ailleurs, j'ai vu.
Oui, ben Lopez justement, ouais. Fofana, qui a pas été bon non plus samedi, ouais. Samedi. Et puis il y a un autre en repos, le Parra, je crois. Hein. Non, Parra doit jouer, je sais plus en fait.
Oui, il y en a trois en repos.
Daniel Chouli justement qui est en repos.
On rappelle, samedi 28 février, Écosse-Italie, France-Galles et dimanche 1er mars, la finale pour moi, pour nous, je pense pour tous, Irlande-Angleterre. On en reparlera, il n'y a pas de souci. Et on va finir cette émission avec l'exploit du week-end. Hein, l'exploit français du week-end et la médaille d'or en slalom de Jean-Baptiste Grange.
Ouais, je voulais mettre un petit jingle de Clermont pour notre ami Ludo avant ça, mais t'as raison, on va passer directement au sport d'hiver quand même, Yves, parce que ouais. ça fait pas très
la France
sérieux.
Gagne.
Ça fait pas très sérieux.
Ça fait sérieux.
Et ouais, Nico, alors on était en train de regarder la fin des matchs de Ligue 1 hier soir.
Sensationnel.
On regardait, on avait oublié qu'il y avait encore du ski parce qu'on s'attendait. Et voilà.
Moi, je regardais un petit documentaire sur la 5, là, tu vois, pour
médaille d'or
le week-end, tu vois.
Médaille d'or, Nico.
Médaille d'or pour Jean-Baptiste Grange, là, c'était la super cote, celle que aucun bookmaker, je pense qu'il faudrait se renseigner auprès des sites de Paris Sportifs, mais je pense que personne n'avait misé 1 euro sur Jean-Baptiste Grange.
S'il avait misé 1 euro,
j'avais misé 100 euros dessus.
Si tu avais misé 1 euro, tu aurais gagné entre 150 et 200 euros. Sa cote était à plus de 150 ou 200 contre 1, je ne sais plus.
Dernière.
Mais ça, il n'avait pas gagné depuis perpète.
2011. 4 ans. Exactement. Dernière fois qu'il monte sur un podium, champion du monde en 2011. 4 ans sans monter sur un seul podium de Coupe du Monde.
Et depuis, que des misères. La misère des champions français, c'est-à-dire beaucoup de blessures. Il a eu un petit peu toutes les opérations possibles et inimaginables. Mais il est toujours revenu. Il s'est toujours placé, j'ai envie de dire. Hein. Il était régulièrement dans le top 10. Il a fait d'ailleurs quelques top 6 encore ces derniers temps. Mais rien ne laissait présager un possible podium, surtout que dans le grand cercle blanc en slalom, il y avait des spécialistes, notamment Marcel Hirscher, l'Autrichien, qui était vraiment au top de sa forme, et la meilleure chance française, c'était Alexis Pinturo. Eh bien non, et c'est aussi ça la beauté des championnats du monde, c'est sur une course, en l'occurrence deux, vu que c'est deux manches de slalom, et tout est possible.
Tout est possible, on l'a bien vu. Et la France, donc, qui finit avec trois petites médailles. Alors, cet or, évidemment, vu que le classement se fait par l'or, de suite, ça nous fait remonter dans le classement. On est quatrième, avec une médaille d'or et deux médailles de bronze. C'est l'Autriche, comme prévu, qui finit largement en tête avec cinq médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. On rappelle, il n'y a pas beaucoup de compétition dans le ski alpin. Et pour coller neuf médailles, c'est pratiquement, c'est un tiers de toutes celles qui ont été mises en compétition. Donc.
L'Autriche, c'est une nation de ski de façon, Philippe.
Ah oui, c'est une nation de ski, ils ont l'habitude effectivement de gagner. Pour l'équipe de France, le bilan quand même satisfaisant. Bon,
chez les hommes.
Par contre, chez les filles, effectivement, ça n'a pas été du tout ça. Mais effectivement, la soirée d'hier soir, quel souvenir sportif, effectivement, parce qu'il l'a gagné, il l'a bien gagné, hein, parce qu'effectivement, il a fait douter les autres, et même il les a fait faire des fautes, puisque le dernier qui le menaçait, il a fait une faute et voilà, il n'a pas terminé. Donc il les a vraiment mis sous pression.
À Ludo.
Ouais, Marcel Hirscher, qui a été poussé à la faute, il rate un passage, hein, et voilà, ça a été bien joué de la part de Jean-Baptiste Grange. C'est le grand moment d'émotion, de cette soirée. Hier soir, j'étais devant la télé, et ça a été super, hein.
Par contre, j'ai été déçu des pays nordiques comme la Suède, la Norvège. Je pensais qu'ils allaient placer un ou deux gars, et puis finalement, très décevant. Est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle génération, mais j'étais vraiment surpris qu'ils ne proposent pas. Voilà.
L'Autriche, les
États-Unis. Ils raflent toujours tout.
Voilà, domine
les États-Unis.
Voilà,
les États-Unis aussi, hein, ils ratent un peu, c'était chez eux, donc ils ratent un peu leur compétition, on va dire.
Deux médailles d'or, ils finissent deuxième et deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.
Américaines, oui, par contre. Ouais.
Nico, qu'est-ce qui t'a marqué toi sur cette compétition pour clôturer?
Finalement, pas mal de surprises et je pense qu'on est dans une année de transition niveau ski. C'est vrai qu'on avait quelques cadors vieillissants, hein, que ce soit Ligetaï qui avait remporté maintes médailles, que ce soit Svindal qui revient de blessure. Donc oui, et puis niveau du ski français chez les filles, il y a du boulot, je pense. Chez les garçons, il y a des espoirs.
Allez, ben on va finir. On finit quand même, c'est quand même bien. On a bien fait de finir par le ski parce que finir par une bonne note. Ah,
moi, j'ai quand même une autre bonne note. Effectivement, c'est aussi un sport d'hiver parce que c'était le rallye du Suède. Ah, c'est effectivement Seb Ogier qui a gagné.
Avant les extra time, hein, il me le met déjà direct.
Qui a gagné. Là, c'est un exploit également. Hein. Et oui, qui a gagné dans la dernière spéciale.
Exactement. On va en parler. Donc, on clôture sur le ski, sur la bonne note. Et ben maintenant, les prochaines échéances de ski, c'est quand c'est championnat du monde. C'est...
Parce que là t'es allé championnat du monde de ski de ski nordique là, ski de fond tout ça, et le biathlon c'est dans 15 jours à peu près.
Exactement. C'est où Nicolas
Nordique arrive,
c'est à Boulogne.
D'accord.
Ah oui, non, ça en Finlande. Ludo, le biathlon c'est en Finlande.
Moi j'ai retenu trois grands noms malgré qu'il a perdu hier, mais Marcel Hirscher, trois médailles, donc, deux titres mondiales, et puis les filles Tina Mazet, pareil, hein, c'est deux titres mondiales et une d'argent, et puis Anna Fenninger hein, qui fait chavirer la jante masculine, hein, et pareil, elle a deux titres mondiales et une d'argent, c'est on va dire les deux filles et, qui ont surclassé Lindsey Vonn, hein, qui a préféré,
c'est la surprise,
on le disait, de Tiger Woods, et Marcel Hirscher quand même malgré sa, on va dire sa défaite d'hier. Hein.
Allez. On passera au fond d'ici quelques semaines du coup, et on va avant de terminer l'émission, on va faire un petit tour de table avec les extra time, Nico. Allez, comme d'habitude les extra time, alors ben on va démarrer par celui qui est loin, par le Clermontois, Ludo.
Ah, ça aurait été Jean-Baptiste Grange, mais on en a parlé, donc voilà. Et puis je vais laisser la place à Philippe, parce que ce qui m'a marqué aussi ce week-end, c'est la victoire de Sébastien Ogier, vainqueur du rallye de Suède. Une course à rebondissement, mais je vais lui laisser s'expliquer.
Oui, surtout, c'est pas effectivement qu'il soit vainqueur d'un rallye, parce que ça, il sait le faire, effectivement, il le sait faire très très bien. On l'a vu au Monte Carlo, mais c'est vainqueur d'un rallye de Suède, parce que c'est excessivement rare qu'un Français gagne le rallye de Suède. C'est un rallye qui est très très spécifique, effectivement. Donc qu'il aille chercher les meilleurs dans ce rallye, et on a vu que les Hyundai effectivement c'était une très très bonne surprise parce qu'elles étaient en tête, et maintenant elles sont fiables avec quand même des pilotes comme Neuville qui sont très très bons, et là dans les dernières spéciales il est allé chercher ce rallye, ça prouve vraiment qu'il a une très très grande forme et qu'il a un petit plus par rapport aux autres années. Il est encore plus fort que d'habitude parce que ça, n'est-ce pas pareil, aller chercher les...
C'est la deuxième fois, je crois, qu'il gagne un...
Voilà, et ça, l'aube, même le grand l'aube, je crois qu'on ne l'avait pas fait. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a fait. Voilà. Et par contre, on voit qu'en rallye, ben, le pilote est très très important parce que les Citroën, effectivement, qui avaient l'aube, étaient bien au rallye de Monte Carlo. Voilà. Et ben là, ils sont vraiment dans la poudreuse, si on peut dire, puisque la meilleure Citroën, elle est 7e, très 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 loin. Donc on voit qu'en rallye effectivement le pilote a une grande importance, surtout quand les conditions sont difficiles comme sur la neige.
Ludo.
Ouais, Philippe, ouais. Donc tout simplement Sébastien Ogier, justement, c'est le premier pilote nordique à gagner ce rallye plus d'une fois, il a gagné deux fois en 2013-2015, donc ce qui prouve quand même la valeur de la performance, hein, comme
exactement. Allez, donc voilà Philippe, Vincent.
Alors moi j'ai juste un coup de gueule. Bon,
c'est toujours des coups de gueule.
Oui, c'est coup de gueule.
Jamais content.
Alors moi je suis jamais content. J'ai regardé donc samedi, j'ai regardé Paris-Cannes, 3e minute.
Mais déjà fallait pas le faire.
Et bon, il y avait rien en face. Enfin, si, il y avait Italie-Angleterre.
Vas-y.
Et il y a quelque chose qui m'énerve. Hein. C'est qu'on puisse. Alors, tu vas peut-être nous donner ton avis, Yves, que les arbitres puissent mettre un carton jaune à un joueur qui marque un but parce qu'il sort le t-shirt. Ah ben, et ça m'énerve.
Est-ce que quand je sors un bon commentaire, j'avais mon t-shirt dessus?
Non, mais je veux dire, il a mis un beau but, quoi. Je veux dire, le but de la journée.
Qui aurait dû être refusé d'ailleurs.
Oui, exactement. Bon, peu importe. Il marque son but, il sort son maillot pour fêter son but, il prend un jaune.
Pourquoi?
Ça m'énerve.
Avant l'explication technique, pourquoi sortir un maillot quand on est content? Est-ce que je baisse mon pantalon? Est-ce que j'enlève mes chaussures? Non, mais ça m'éconne.
Alors il va être suspendu contre Monaco, qui est l'affiche des quarts de finale de la Coupe de France, à cause de ce que sort un maillot. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à sortir un t-shirt, quoi?
Rapidement, déjà il l'a fait numéro 1 parce qu'en fait c'est une opération contre la faim, avec tous les prénoms qui étaient marqués dessus. C'était pas des tatouages définitifs, hein. Donc premièrement, après pour le maillot, c'est justement parce qu'il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives parce qu'à une époque, dans les années 80-90, on sortait le maillot, il y avait des slogans, notamment beaucoup en Italie, etc. Du coup, hop, pas de maillot enlevé.
Et moi je trouve que c'est exagéré
parce que c'est un peu exagéré, effectivement. Voilà. Mika, à toi l'extra time.
Moi je comprends pas ces gens qui avaient les maillots. Non, mon extra time. Si, j'avais quand même envie de parler rapidement, parce qu'on ne s'est pas trop attardé tout à l'heure, de Lionel Messi, qu'on a pas mal critiqué d'un point de vue sportif et aussi extra-sportif sur les derniers mois. Il marquait pas beaucoup, il était un petit peu en délicatesse avec le coach du Barça, avec l'entourage au Barça. Il y a certains qui disaient qu'il allait partir rapidement, que du coup il était plus dans le coup, il marquait plus. Mais là voilà, ça a complètement tourné, il revient vraiment dans le coup sur le championnat, et je pense aussi parce que la Ligue des Champions arrive. Et voilà, ça va être l'homme fort de la fin de saison, il s'est bien remis de son non-ballon d'or, et à mon avis, il n'y aura pas de souci.
Que Dieu t'entende. Allez Aurélien, t'as un extra time.
Alors moi, je vais vous parler d'un free surfer, Damien Castera, et de Mathieu Crépel, un snowboarder d'un double champion du monde, qui a tous les deux vont réaliser un documentaire qui s'appelle Odyssey, qui va se réaliser en Alaska, où ils vont relier le sommet du Ridge of Dream Icefield au golfe d'Alaska en suivant la piste de l'eau et la fonte des neiges. Donc c'est pour le moment, ils ont juste sorti un teaser de ce documentaire qui sera réalisé entre mai et juin, mais un teaser qui promet des images juste exceptionnelles, et il dure en tout 52 minutes, et il va être, je pense, très très beau.
Sport extrême.
Sport extrême, ouais.
Exactement.
Ouais.
Nico,
merci Mika de
quand je quand je c'est pas un la technique, c'est deux là.
Quand je m'oublie, vas-y, t'appuies sur le bouton. Moi c'est vrai que ce qui m'a marqué ce week-end, c'est finalement cette dernière info du week-end, Jean-Baptiste Grange qui a remporté le slalom des mondiaux. Et pour être bien dans l'actualité d'aujourd'hui, et bien l'annonce d'un cycliste qu'on aime bien, Alberto Contador, qui pourrait arrêter sa carrière à l'issue de la saison 2016. C'est une info qu'il a dévoilée aujourd'hui. Il faut savoir qu'Alberto Contador, il va tout miser sur le Tour de France cette année. C'est sa dernière année de contrat avec l'équipe Saxo Bank, Tinkoff Saxo plutôt. Faut pas oublier aussi qu'il a besoin de faire une belle saison et d'annoncer qu'il lui restera plus qu'une année de vélo après. Ça lui permettra de bien se mettre la pression, et surtout, ça lui permettra de trouver un bon contrat pour la dernière saison. Ouais. Qui pourrait ne pas être la dernière, parce qu'on sait que dans le sport, on peut annoncer sa retraite et revenir.
Justement, comment tu la sens cette saison? Parce qu'on parle toujours dans Radio Vélo du cyclisme, mais on peut en parler un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'est normal, c'était la trêve.
Assez difficile à lire cette saison, parce que si tu parles des grands tours, par exemple, il y a pas mal de revanchards. Contador, il s'est bien repris sur la Vuelta, vu qu'il a remporté après son Tour de France délicat. Christopher Froome, il sort d'une saison quasiment blanche. Bien sûr, il va être de retour à son meilleur niveau. Ces gars-là, ils vont affronter le vainqueur du Tour de France sortant, Nibali, et Quintana, qu'ils ont quasiment pas affronté l'an dernier.
Ouais, c'est ça. C'est difficile de se prononcer, parce que on n'a pas pu les jauger les uns avec les autres l'année dernière. Donc du coup, on ne sait pas trop où ça en est de l'échec mondial.
Ouais, avec pas mal de transferts aussi, hein, parce que pour ne parler pas que des coureurs de grand tour, il y a Peter Sagan par exemple qui a rejoint l'équipe Tinkoff Saxo de Contador.
Ouais, ça promet une belle année, tu le vends bien.
Je le vends bien. Ouais. Écoutez Radio Vélo aussi à partir de là.
Je suis un peu perturbé, on est filmé en même temps aussi. Alors.
Et allez, mais moi je vais, parce que à chaque fois que le TFC perd, il y a un coup de gueule dans l'extra, il y a un coup de gueule dans l'extra time, il n'y a pas de raison, ils ont gagné. Ouf.
Extraordinaire quand même. Ouf. Gros match contre Rennes, ça c'était le match du week-end.
Ouf, parce qu'ils se font égaliser à 5 minutes de la fin et on croyait que psychologiquement ça allait tomber. Et la ressource, le deuxième but qui arrive pratiquement dans les arrêts de jeu et qui leur permet de prendre un bol d'air, Aurélien.
Ah oui, qui leur permet d'espérer le maintien et de s'éloigner un petit peu de la zone de relégation. Ils prennent, je crois, ils ont toujours 2 points d'avance, je crois, sur le premier relégation.
Ils ont bien fait de gagner.
Voilà. ils accueillent ils vont Paris Saint-Germain, reçoivent Marseille et vont à Saint-Etienne. Donc ça,
au meilleur moment,
il fallait prendre des points. Ouais.
Je pense qu'effectivement, on en reparlera, les messieurs, dans 3 semaines. Je pense que ça sera zéro pointé.
Au PSG, juste après la Ligue des Champions, c'est pas forcément un mauvais coup.
Ouais,
hein. En général, c'est là qui tombe.
Ouais, c'est le meilleur moment pour
y
aller.
Si vous voulez voir une belle victoire, allez voir Toulouse-Marseille. Là, vous verrez une belle victoire marseillaise.
qui passe tout le temps contre le TFC.
Exactement. Ouais. Allez. Eh bien, écoute, Ludo, vas-y.
Oui.
Juste pour terminer, Vincent m'avait posé une question la semaine dernière, c'était au niveau Fed Cup, vous savez, République Tchèque, oui. France, donc le match aura bien lieu en République Tchèque, les 18 et 19 avril, hein, j'ai cherché ça cette semaine. Et puis un autre point, eh ben, le Flower of Scotland, hein, l'hymne écossais, il donne toujours des frissons. Oui. Et puis une autre image du week-end, eh ben, c'est le petit jeune qui a chanté vraiment à gorge déployée le God Save the Queen, là devant les joueurs anglais. Ça aussi c'était magnifique, ambiance, on va dire, avec le match, c'est, voilà, ça a été génial.
De belles images sportives. Et on espérera qu'il y en aura autant. Ben c'est la semaine prochaine et on en discutera de tout ça lundi prochain, Nico.
Tu nous résumeras Racing Clermont
ou pas?
Défaite clermontoise.
Je sais pas, comme et Victor Toulousaine.
Bon, ben merci. Merci Ludo d'avoir passé 7 heures avec nous.
Merci, ouais, ça a été dur au début avec le foot.
Non, c'est bien.
Non, c'est bon, je vous ai plus au niveau football, non?
Parfait, impeccable. Ne change rien, Ludo. À part ton chauvinisme. Non, garde-le aussi.
Okay. Allez, Nico, tu as vu le Facebook? Je t'ai fait une petite pub pour Radio Vélo.
J'ai pas vu parce qu'avec le nouveau logiciel, on est un peu à fond. Et puis, entre deux mouchoirs aussi, donc bref. On continue avec Radio Vélo dans 5 petites minutes. À de suite.
Bonne semaine.
J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir.